Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre grande table des idées. Aujourd'hui, comment trouver sa place dans l'exil? L'Union européenne est-elle en plein naufrage sur la question des migrants? Rendez-vous avec l'historien italien Enzo Traverso à partir de 12h55, de passage à Paris à l'occasion de la réédition de La pensée dispersée, l'un de ses ouvrages phares qui vient donc de reparaître édition augmentée chez Ligne. Mais d'abord, des mots doux pour le dire, un roman sur l'absence, la peur du temps qui passe, la fin de l'innocence ou celle de l'enfance, mais aussi la création comme force vitale. Nous aurons été vivants, vient de paraître chez Stock. Son auteur, la romancière Laurence Tardieu, est notre invitée. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Depuis ce jour, Anna n'avait cessé de sombrer, se recroquevillant, creusant un désert autour d'elle, se montrant agressive, alors qu'on aurait tant voulu l'aider, donnant à chaque tentative le sentiment qu'elle voulait et ne voulait pas. Elle voulait qu'on l'appelle et ne voulait pas qu'on l'appelle. Elle voulait qu'on l'invite, elle voulait qu'on lui parle de Laurette et ne voulait pas qu'on lui parle de Laurette. Extrait de Nous aurons été vivants chez Stock. Laurette a disparu il y a 7 ans, laissant sa mère, Anna et le cercle rapproché, Philippe, son père, Lydie et Paul, les amis toujours, Simon, son oncle, sans nouvelles. Sans explication. Bonjour Laurence Tardieu.
Bonjour.
Un jour d'avril 2017, Anna croit l'apercevoir de l'autre côté de la rue et la blessure se rouvre, quelque chose en elle à nouveau s'effondre. Est-ce qu'on peut combler le vide comme un silence avec des mots pour vous, Laurence Tardieu?
Vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet parce qu'en effet, je crois que c'est un texte sur l'incapacité à trouver les mots, voilà, pour tous. Pour Anna, qui en effet n'a plus de nouvelles de sa fille depuis 7 ans, n'a jamais compris pourquoi sa fille est partie sans laisser de traces, et depuis vit dans le, évidemment dans le chagrin, dans la culpabilité, dans la non-compréhension, et ne sait pas trouver les mots et a arrêté de peindre. Anna est peintre, hein, elle a arrêté de peindre depuis la disparition de sa fille, mais aussi pour tous les personnages de ce texte, finalement, qui n'ont pas les mots. Le père d'Anna n'avait pas les mots. Laurette n'avait pas les mots. C'est pour ça peut-être qu'elle est partie. Lorsqu'on est dans l'incapacité à dire les choses, à nommer ses sentiments, ses émotions, on est dans l'effroi. Et on se laisse couler, c'est la noyade dont parle le père d'Anna.
Quelle est pour vous la colonne vertébrale de nos vies? Alors est-ce que ce sont les mots? Est-ce que ce sont nos émotions? Est-ce que ce ne sont pas surtout les souvenirs que vous faites remonter d'ailleurs dans ce roman?
C'est à chacun de trouver sa colonne vertébrale. Moi la mienne ça a été l'écriture, j'ai eu la chance d'avoir justement cette nécessité de l'écriture depuis toute petite, depuis que j'ai 6 ans. Et ça, c'est ma colonne vertébrale. Je ne peux pas vivre sans écrire, puisque à nouveau, voilà, c'est la tentative de d'explorer le réel, de dire ce qui m'habite, de dire mes émotions, de me rapprocher aussi des autres, de trouver ma place dans le monde. Voilà, c'est pour ça que j'écris. L'enfance, bien sûr. Je ne sais pas si l'enfance, si on peut dire que l'enfance est la colonne vertébrale. L'enfance est sans doute le terreau de toute une vie, que parfois on veut oublier, que parfois on oublie, mais qui ressurgit parfois violemment à la surface à l'occasion de certains événements. C'est le cas pour plusieurs des personnages de ce texte, n'est-ce pas? Simon, le frère d'Anna, ne comprend pas pourquoi. Il est oncologue, donc il travaille, il est cancérologue, il essaye de sauver des vies. Et il ne sait pas pourquoi depuis quelques semaines, quelques mois, certains souvenirs, certaines images de sa petite enfance remontent violemment. Des souvenirs heureux, hein, dans la maison de leur enfance à Anna et lui, des souvenirs de leur mère, des souvenirs de leur père. Pourquoi tout à coup ça surgit alors que lui avait voulu oublier, contrairement à Lydie, qui est l'amie solaire d'Anna, qui, elle, a essayé de ne pas oublier, mais qui se souvient beaucoup, beaucoup, beaucoup de son enfance, qui continue à la nourrir et dont elle essaye, elle a du mal à comprendre comment le temps est passé si vite depuis l'enfance, comment elle est maintenant, elle aussi, comme Anna, presque dans un début de dernière saison de vie. Voilà comment les choses ont pu s'accélérer à ce point.
Ouais. Et alors, ce qui fait réveiller ou ce qui cette douleur remonter les souvenirs chez Anna, c'est cette apparition de l'autre côté de la rue. Elle croit apercevoir sa fille Laurette. L'image, écrivez-vous, la traverse en rafale. Elle a beau avoir déjà parcouru au moins 100 mètres, l'image la pourchasse, l'image la talonne. En fait, est-ce qu'elle l'a vue? Ou est-ce qu'elle a cru l'avoir? C'est cette possibilité, écrivez-vous, qui ouvre un gouffre. Hein,
oui.
Quand bien même ce n'était pas elle, la possibilité que ce fût elle existait, écrivez-vous. Et c'est bien parce que cette possibilité désormais faisait partie du réel, que tout était bouleversé, que la vie ne pouvait plus être comme avant. C'est possible, ce champ des possibles, il suffit d'une image pour le réouvrir.
Oui, pour bien comprendre, Anna, donc tout début du texte, effectivement, croit apercevoir sa fille. Ça fait 7 ans qu'elle n'a aucune nouvelle, et cette vision qui dure 7 ou 8 secondes la plonge à la fois dans l'effroi, mais aussi dans le bonheur, évidemment, puisque elle attend désespérément un signe, une trace depuis toutes ces années. Donc c'est tout à coup, c'est comme un séisme intérieur qui la traverse. J'en perds moi-même les mots. Je ne sais plus
comment une image peut réouvrir.
Oui, et effectivement, c'était très important pour moi qu'on ne sache pas si cette image était réelle ou fantasmée, parce que je crois que la vie, c'est ça. Parfois, il y a des choses qui se passent et on n'est pas certain qu'elles se soient réellement passées. C'est bien ça, la complexité du réel. Le réel ne nous apparaît pas de manière lisse ou évidente très souvent. On n'est pas certain. Les choses parfois ne sont pas certaines. C'est peut-être et c'est pas voilà. Et donc je voulais que cette ambivalence en fait court tout le temps du texte. Et effectivement, comme vous avez cité ce passage, c'est bien. C'est pas parce que il y a eu la. C'est pas parce qu'elle est certaine que Laurette soit apparue. C'est bien parce que peut-être que ça s'est passé. Peut-être que c'était sa fille, ou peut-être pas. Mais en tout cas, tout à coup, le fragile édifice qu'elle s'était employé à construire autour d'elle pour faire face à la douleur, au chagrin, à la culpabilité, tout ça s'effondre, ça ne tient plus. Parce que si Laurette, en fait, peut à nouveau être là devant elle, alors le passé, évidemment, ressurgit avec toute sa beauté et tout aussi sa violence, la violence de ce qu'elle avait cherché à oublier pendant des années.
Parce qu'on ne sait pas et on ne saura pas si Laurette est partie, s'il lui est arrivé quelque chose, s'il est encore en vie.
Oui, mais ça c'est important pour moi parce que finalement, lorsque j'écris de livre en livre, je cherche ça, je cherche à... C'est une des forces de l'écriture et de la création, je pense sur d'autres disciplines aussi... C'est tenter de dire justement la complexité du réel, tenter de rentrer dans cette... Quand même, la vie, c'est un enchevêtrement de tant de choses, souvent qui nous échappent, qu'on ne comprend pas. Et écrire, pour moi, c'est tenter de m'approcher au plus près du vivant, et donc au plus près de cette complexité, au plus près aussi de toutes ces choses dont on n'a pas la réponse, de toutes ces interrogations, et faire avec, se frayer un chemin à travers ces interrogations, ces incertitudes, vous voyez.
Sur le deuil de l'enfant ou d'un enfant, sur la possibilité ou l'impossibilité d'un retour, l'écrivain Laurent Mauvignier disait quelque chose qui nous a interpellés. Je ne sais pas comment vous l'entendrez. C'était au moment de sa pièce « Tout mon amour » en 2012. Le texte est paru aux éditions de Minuit. C'était un retour sur une disparition, là encore celle de la fille, et là aussi d'une apparition, une silhouette dans un cimetière qui réveille les cauchemars.
Cette pièce, elle a été très longue à écrire parce que pendant très longtemps, j'y arrivais pas parce que il est bien plus difficile d'accepter, même si on désire le retour de quelqu'un, quand on met 10 ans pour faire le deuil de cette personne-là, d'un enfant en l'occurrence, s'il réapparaît, ça implique de faire le chemin dans l'autre sens et c'est impossible. C'est trop de souffrance, trop. Et puis quelque chose a été privé, quelque chose de l'enfance est perdu à jamais. Pour l'enfant, mais aussi pour son entourage, pour les parents. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, le vrai problème, c'est ça, en fait. C'est l'impossibilité du retour. C'est pas le retour, en fait.
Il est là aussi pour vous, le vrai problème?
Pas dans ce texte, puisque dans ce texte, Laurette a choisi de partir. Elle n'est pas tombée malade, elle n'est pas morte, elle n'a pas été kidnappée. C'est elle qui a choisi de partir. Et Anna le sait. Anna sait que c'est le choix de sa fille, qu'elle ne comprend pas, qui lui est extrêmement violent. Mais donc il y a une place, je pense, pour le retour. Évidemment, ça aurait été différent si Laurette était morte. Là, je crois qu'il y a une place pour le retour. On voit bien, puisque il suffit de 7 à 8 secondes pour que tout ce qu'Anna croit avoir construit depuis 7 ans s'effondre. Ça montre bien que la Terre est encore meuble et que il y a la possibilité de la vie. Et d'ailleurs, en fait, ce texte est une forme de renaissance, de retour au centre, à la lumière. Voilà.
Il y a beaucoup de points d'interrogation dans votre texte et surtout dans les monologues intérieurs d'Anna. Laurence Tardieu, vous, dans la vie, vous vous posez toujours autant de questions?
Oui, je me pose beaucoup de questions. C'est bien de se poser des questions. J'aime pas trop les gens qui ont toujours des certitudes, des réponses à tout. Je trouve que se poser des questions, c'est justement se sentir vivant et se sentir... pour reprendre ce que dit à un moment... Anna, de sa vie, elle se dit, voilà, j'ai 58 ans et à quel moment, elle se dit ça plus tôt, en fait, pardon, dans la seconde partie, je sais plus, elle a 45 ans, elle se dit, est-ce qu'il y a un moment où je vais me sentir vieille? Je me sens si proche de cette jeune fille que j'étais quand j'avais 16 ans, 18 ans, 20 ans. Et je crois que justement, ça vient du fait que d'être toujours en mouvement, quoi, en interrogation, parce que se poser des questions, ça permet aussi de chercher à comprendre, de ne pas être dans le jugement, chercher à comprendre les autres, ne pas être dans un jugement catégorique, définitif, s'ouvrir, hein, ça permet un élargissement. Donc je me pose beaucoup de questions et j'ai la chance, encore une fois, d'avoir l'écriture pour m'aider à traverser les questions. Finalement, je crois que chacun de mes livres a été une traversée d'un questionnement. Voilà. Là, en l'occurrence, ce livre, Nous aurons été vivants, c'est... je suis partie de mon obsession, à ce moment-là, de mon interrogation sur le temps, justement. Je sais, il y a plein de choses dans ma vie qui ont fait qu'à un moment... Je me suis dit, mais j'aimerais comprendre qu'est-ce que c'est que le temps, finalement. Ça peut paraître une question, mais qu'est-ce que ça veut dire, le temps? On est un enfant, on est un adolescent, on a l'impression que la vie est infiniment longue. Et tout à coup, il y a une accélération incroyable et on s'aperçoit que la vie a passé, énormément de vie a passé. Et en même temps, donc tout ça est très, 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 très bref. Et en même temps, il y a des moments qui auront été infiniment longs. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette construction dans ce texte, avec cette deuxième partie qui reprend des épisodes de la vie d'Anna, des moments de la vie d'Anna. Vous voyez cette dilatation du temps par moment dans une vie, et en même temps la vie, aussi brève qu'un souffle. J'avais envie, comment vous dire, de pétrir cette matière du temps avec ce texte. Donc mon interrogation, mon obsession, à ce moment-là, l'écriture, c'était bien le temps.
Oui. Un roman, vous le dites, sur le temps qui passe, la jeunesse qui nous échappe, mais contractée, condensée sur une journée. C'est le choix que vous avez fait, Laurence Tardieu, celle de l'apparition d'Anna, celle aussi où Paul retrouve Marie, sa jeune élève de piano, celle où le monde de Lydie, construit autour de son mariage avec Paul, va s'effondrer. Il y a quelque chose d'une Virginia Woolf, que vous avez souvent dit admirer, et
merci.
De sa Mrs. Dalloway.
Ah, merde. Thank you.
Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, Clarissa, l'héroïne, se retrouve aussi à un moment face à elle-même sur une journée avec les souvenirs du passé qui ressurgissent. Là, on entendait un extrait de Three Words, Music from Woolf Works, inspiré de trois textes de Virginia Woolf et c'est signé Max Richter. Mrs. Dalloway in the Garden, c'est le titre de cette musique répétitive, elle aussi. Mais le temps avance. Et vous écrivez, Laurence Tardieu, bien sûr que le temps passe, il passe comme un train lancé à toute berzingue et qui ne s'arrête dans aucune gare. Il passe et laisse derrière lui des terres brûlées qui ne revivront plus, dont personne ne fera rien. J'ai perdu mon enfance, dit Marie, j'ai perdu le monde de mon enfance et celui de ma jeunesse, j'ai perdu mon adolescence. À chaque instant, je perds quelque chose. Et toi aussi, dit-elle à Paul, et nous tous, cela n'existe plus, cela n'existera plus jamais. Lorsque j'y pense, j'ai l'impression de n'appartenir à rien, de flotter dans la nuit. Paul lui répond à ce moment-là, Laurence Tardieu, on pourrait peut-être demander au train de faire escale, tout en regrettant immédiatement après l'avoir prononcé cette phrase, pourquoi serait-elle si stupide? Pourquoi regrette-t-il de l'avoir prononcée?
Non, mais il a raison. Mais bien sûr, il regrette de l'avoir prononcée de cette manière parce qu'il a l'impression que c'est un peu grossier. Tout à coup, là, dans cette scène, enfin dans ce moment qui passe avec Marie, donc qu'il revoit, qu'il n'avait pas revu depuis plus de 30 ans. Mais en fait, je pense que c'est lui qui a raison. Vous avez raison parce que la vision de Marie est totalement désenchantée. Et lorsqu'on a ce sentiment que chaque instant passe et qu'on l'a perdu au moment même où il passe, c'est bien qu'on subit la vie quelque part.
Qu'elle
nous échappe totalement. Et je pense que une des quêtes de la vie, enfin, c'est de faire en sorte que certains moments, au contraire, restent, soient dilatés, comme on pourrait prendre ce terme qu'on utilisait tout à l'heure, appartiennent pour toujours au présent, en fait. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, la vie est infiniment brève, oui, mais à nous de trouver des moments qui deviennent éternels, qui nous fassent toucher l'éternité. Ça peut être, alors pour moi, ça a été la création, ça peut être l'amour, ça peut être avoir des enfants, voilà. À chacun, de, là encore, de trouver sa manière de... Mais c'est lui qui a raison, bien sûr. Il faut sauver les moments, il faut sauver sa vie, puisqu'elle est brève, il faut sauver sa vie.
Ouais. Notre invitée, Laurence Tardieu, romancière pour ce 10e, 11e roman « Nous aurons été vivants » qui vient de paraître chez Stock, France Culture, il est midi 21.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
La maison, l'arbre de son enfance qui abrite la mémoire familiale, elle s'y raccroche, c'est ce lieu où tout a commencé. Et c'était déjà le cas dans votre précédent roman, À la fin du silence, où vous reveniez sur la vente de la maison de votre enfance, qui a fait naître en vous ce sentiment d'être comme dépossédé de votre monde intime, Laurence Tardieu, votre monde intérieur. Écrire ce monde, c'est à la fois le faire perdurer et peut-être aussi se le réapproprier. Lundi 7 janvier, nous sommes aujourd'hui le lundi 7 janvier 2019, 4 ans jour pour jour après l'attentat de Charlie Hebdo, 2015, année noire, au sujet de laquelle vous écriviez dans À la fin du silence au seuil, quelque chose s'était désagrégé pour toujours. Depuis le 7 janvier, tout était devenu poreux, l'effondrement s'était infiltré jusque sous ma peau, le monde m'est rentré sous la peau. Est-ce que vous êtes remis de ce choc collectif, intime, personnel que vous aviez raconté dans ce livre? Est-ce que vous avez le sentiment que l'unité, au moins en vous-même, a été retrouvée?
Remise, je ne sais pas si j'emploierai ce terme, parce que quelque chose définitivement a changé, et dans ma vie, et dans ma manière de voir le monde. Mais je me suis remise de la porosité. En fait, juste pour revenir, ce moment où j'ai écrit, donc effectivement après les attentats du 7 janvier, ceux de novembre 2015, du 7 janvier, j'étais enceinte, j'attendais mon petit garçon, et c'était insensé d'attendre la vie alors que j'avais l'impression que le monde s'effondrait à ce point. Voilà. Et donc j'ai vécu pendant très longtemps avec ce sentiment de porosité que j'ai essayé d'exprimer justement comme un cri. En fait, c'était un cri à la fin, le silence. J'avais l'impression qu'on vivait tous dans un monde qui est en train de vaciller et qu'il fallait d'une manière ou d'une autre retrouver du sens, retrouver de la lumière, sinon on allait tous devenir dingues. Donc je pense que grâce notamment à l'écriture et puis grâce à la vie, puisque c'est ça, c'est quand même là que la vie est magique, c'est que la vie nous remet en selle parfois, pas de la manière qu'on attendait, mais elle nous remet en selle. Moi justement, j'ai eu la chance de mettre au monde un petit garçon qui m'a redonné beaucoup de joie, qui a remis beaucoup de joie dans mon existence au quotidien. Puis l'écriture est, enfin, c'est quand même une chance énorme de pouvoir écrire, parce que on lutte justement contre l'effacement des choses, l'effacement des êtres, voilà. Et écrire ce texte à la fin du silence m'a permis de retrouver du sens grâce aux mots. Donc je sais pas si je me suis remise, parce que on vit, enfin je pense que c'est maintenant dans le corps de chacun, hein, ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre, mais j'ai appris à traverser ça. Et puis j'ai appris aussi à... Je crois que c'est important de... Enfin, à partir du moment où on est là, de chercher la lumière, quoi. Il y a quand même... On vit dans un monde très, 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 très difficile, hein, aujourd'hui. Mais il y a plein de choses absolument magnifiques, quand même. Vous parliez des arbres. Voilà, Anna se rappelle de cet arbre qu'elle adorait entourer. Les arbres, la lumière, enfin, ça paraît peut-être un peu bêta ce que je dis, mais moi, ça me donne profondément de la joie de regarder la beauté du monde. Et je pense que c'est encore plus important lorsqu'on a l'impression que tout part en chaos, quoi.
Les attentats de Charlie Hebdo, oui, suivront l'hypercacher, le Bataclan, oui, ou encore Nice, ces jours où, vous l'écriviez dans la fin, le silence, la peur était entrée dans ma vie, et l'imprévisible et le sentiment du désordre du monde, de son unité perdue. Dans ce roman, Nous aurons été vivants, vous questionnez le sens de la vie. Est-ce cela qu'on appelle vivre? Éprouver dans le même souffle la présence et l'absence de toute chose, de tout être, avec ce besoin, peut-être vous-même, de l'éprouver, de ressentir le fait d'être en vie par l'écriture. Il y a quelque chose à voir et à trouver du côté de la création, et votre héroïne Anna nous le rappelle, elle qui est peintre, elle qui dit et confie à son amie Lydie que son travail lui révèle quelque chose d'elle-même et des autres et du monde, que c'est par la peinture qu'elle ressent le monde, vous probablement par l'écriture. Depuis Comme un père en 2002, Laurence Tardieu, suivi de Puisque rien ne dure en 2006, ou encore La confusion des peines, des romans sur le temps qui passe, sur l'amour, sur la perte, est-ce que vous avez le sentiment de construire une sorte d'édifice, une petite maison littéraire à vous? Est-ce que chaque livre est une pierre supplémentaire? Vous trouvez le fil à toutes ces écritures?
En tout cas, je vois ça comme une très longue route que j'ai commencée bien avant mon premier livre, en fait, que j'ai commencé à 6 ans lorsque j'ai attrapé pour la première fois une feuille de papier et je me suis rendu compte du bonheur que c'était pour moi de pouvoir mettre des mots. Donc dès toute petite, dès l'enfance, cette route a commencé d'abord totalement secrète, puisque je ne disais à personne que j'écrivais, mais je savais qu'elle m'était essentielle pour vivre, et j'ai eu cette chance d'abord immense d'être publiée, puis ensuite cette chance immense que de pouvoir continuer à être publiée, de pouvoir construire, oui, je ne sais pas si le mot œuvre est très impressionnant, donc je n'oserais pas l'employer, mais de livre en livre, j'ai l'impression d'avancer sur ma route au plus près de moi et de manière libre. En fait, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, comme au fond, je rêvais de le faire depuis toute petite. Voilà. Avec des cycles, hein, il y a eu d'abord un cycle fictionnel, ensuite un cycle autobiographique, et maintenant à nouveau un cycle fictionnel. Et à chaque fois, j'ai l'impression d'élargir, de repousser un peu les frontières, pour reprendre cette expression magnifique qu'utilisait Kafka. De repousser les frontières, pas seulement dans l'écriture, mais aussi du coup dans ma vie, puisque chaque livre est une tentative de compréhension, voilà, du monde, du réel, et me permet de m'arrimer un peu plus au monde, de m'ancrer un peu plus dans la vie. Sans les livres, sans l'écriture, j'aurais glissé. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. J'aurais pas trouvé ma place. C'est la chance de ma vie. Voilà.
Écrire pour grandir ou écrire pour guérir, comme le disait Christian Bobin.
Je pense que l'écriture est un travail de guérison. Elle a à voir avec quelque chose comme une guérison. Pas uniquement ma propre guérison. Une guérison de la vie. De la vie atténuée, souffrante. De la vie mise à mal par les conditions modernes qui sont les siennes. Et étrangement, pour guérir, il faut d'abord rendre malade. Rendre malade d'émotion. Rendre malade de beauté. Voyez ? Et mon travail, si j'en ai un, ça serait celui de transmettre une émotion qui m'est venue et de qu'elle soit contagieuse.
Alors voilà, vous nous rendez malade à votre tour, Laurence Tardieu, avec Nous aurons été vivants, chez Stock. Guérir ou grandir ? Quel est le rôle de l'écriture ? Comment vous vous
l'appropriez ? Alors, je me pose jamais cette question parce qu'elle est effrayante. C'est-à-dire, je me pose pas la question de quel va être le rôle de mon livre, quel va être le, parce que sinon on n'écrit pas. Je pars au départ de chaque livre. Il y a une sorte d'obsession, là, en l'occurrence, j'avais cette vision que le lecteur découvre au départ du livre, c'est-à-dire cette vision d'une mère qui croit voir sa fille de l'autre côté du boulevard. Je ne savais rien d'Anna, je ne savais rien de Laurette, et je suis partie de cette vision, sans la comprendre. Ce qui est certain, je sais pas si j'emploierai le mot guérir, mais ce qui est certain, c'est que chaque livre, me permet de peut-être encore plus rentrer dans les brûlures. Il faut les, voilà, les brûlures, les traverser, ces brûlures, et j'essaye justement de les traverser pour en faire quelque chose, et en espérant que ça percute la vie de mes lecteurs que je ne connais pas, que ça rentre dans leur vie.
Merci beaucoup, Laurence Tardieu.
Merci.
Nous aurons été vivants. Vient de paraître chez Stock. Merci.